Vous êtes sur RTL. RTL Matin
avec Yves Calvi.
RTL, il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le juge pour enfants, Édouard Durand. Il vient d'être nommé co-président de la commission sur l'inceste et les violences sexuelles.
Bonjour Édouard Durand.
Bonjour.
Et vous publiez aujourd'hui avec plusieurs experts « Violences sexuelles, en finir avec l'impunité », c'est aux éditions Duno. Monsieur le juge, à la demande du président de la République, vous avez donc succédé à Elisabeth Guigou à la tête de la présidence de la commission sur l'inceste et les violences sexuelles. Elisabeth Guigou avait démissionné en raison de sa proximité avec Olivier Duhamel, accusé d'agression sexuelle dans le livre de sa belle-fille Camille Kouchner, « La Familia Grande ». Vous dites, Édouard Durand, que l'inceste est un crime à part. En quoi est-ce si différent? En quoi est-ce si difficile pour un juge?
Oui, l'inceste est un crime absolument spécifique. C'est d'abord une violence. Et comme toute violence, l'inceste a à voir avec le pouvoir et avec le corps. Toute violence est d'abord essentiellement une prise de pouvoir sur le corps de l'autre. Mais l'inceste est un crime sexuel spécifique qu'on appelle un crime généalogique en ce qu'il vient ôter à l'enfant sa place dans sa filiation, dans sa
dans
lignée
la famille.
Familiale. Oui. Pour évoquer son livre « Une semaine de vacances », Christine Angot disait à propos de cet enfant victime de violences sexuelles incestueuses par son père, en venant à elle sexuellement, il se refuse à elle comme père.
Et en quoi est-ce si difficile pour un juge alors? C'est ma deuxième question.
C'est difficile pour un juge et c'est difficile pour tout le monde, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la violence, ça fait peur. Et que penser la scène de crime sexuel incestueux, ça fait peur. C'est de l'ordre de l'impensable. Et ensuite, parce que l'agresseur, comme tous les agresseurs, a une stratégie dont l'une des premières étapes est d'imposer le silence. Et donc, il remplace l'interdit de la violence par l'interdit de parler. Et ce silence, il vient contaminer l'ensemble des protagonistes de la scène, y compris ceux qui sont chargés de la protection des enfants. Et il est plus commode de ne pas voir que de voir.
Mais c'est ça, on se demande comment on va protéger un enfant dès lors que l'inceste est une affaire de huis clos familial, une affaire de secret, de lourd secret. Comment on peut protéger l'enfant? Comment on peut faire sauter tout ça?
Ce que vous venez de dire est extrêmement important. Et à mes yeux de juge des enfants, il est toujours essentiel d'arriver à voir que pour les humains, la maison doit être le lieu de la protection. Dehors, il peut arriver des tas de choses. Mais je vais rentrer chez moi et chez moi, je serai en sécurité. Et enfin, je serai protégé par mes parents. Et lorsque nous parlons de violence de l'intime, de violence sexuelle, de violence physique, de violence conjugale, d'inceste, la victime habite dans un lieu qui est le lieu du danger. Et c'est pourquoi il est absolument essentiel de remettre la loi à sa place pour que la maison soit le lieu de la protection et pour que l'enfant puisse reprendre normalement son développement.
Mais souvent, le premier réflexe d'un enfant, c'est de se taire. On parle de libérer la parole, mais le réflexe de l'enfant, c'est de ne pas dire. Vous avez dit, monsieur le juge, que vous étiez face à une énigme. Je vous ai lu. Vous dites, si on dit je suis venu au tribunal car j'étais dans le métro, on m'a volé mon portable, on me croit. Si vous êtes un enfant qui raconte « voilà ce qui s'est passé ce week-end à la maison » ou si vous êtes un adulte abusé pendant l'enfance qui témoigne, vous courez le risque de ne pas être cru.
Vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
Moi, je pense que c'est vrai, malheureusement. Il y a quelque chose chez l'humain qui se refuse à penser le viol et le viol incestueux. Et donc, il faut faire un effort sur soi-même. Et pour que la société dans son ensemble puisse faire cet effort sur soi-même, il faut plusieurs choses. La première, c'est la loi comme construction sociale qui vient dire une exigence collective. La seconde, c'est de donner aux professionnels qui vont aller chercher la parole de l'enfant, des outils pour agir. Parce que nous sommes légitimes à attendre des institutrices, des professeurs des écoles, des infirmières, qu'ils et elles viennent susciter la révélation des violences par l'enfant qui les subit. Encore faut-il leur donner les moyens pour agir.
Alors ça va être le travail de votre commission, mais je voudrais d'abord vous demander, en fait, dès lors qu'il s'agit d'un enfant ou des faits qui se sont passés dans l'enfance, ça génère du doute. Forcément, ça génère du doute.
Oui, ça génère du doute. Toute forme de violence génère du doute. Toute forme de violence de l'intime, je viens de le dire, et particulièrement les violences faites aux enfants. Sans doute est-ce lié à la façon dont nous avons construit la protection de l'enfance au fil des générations dans notre histoire. Vous savez que la protection de l'enfance, d'abord et le plus longtemps, et c'est ce qui nous constitue, a été pensée comme la protection exclusive des enfants sans parents, des enfants orphelins, des enfants vagabonds. Et il a fallu un temps très long pour arriver à penser la protection des enfants soumis à la puissance paternelle, les enfants dans la maison. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que nous avons pensé la déchéance de la puissance paternelle pour ces vices faits aux enfants.
Mais est-ce que vous dites, vous, juge pour enfants, les enfants ne mentent jamais ?
Oui, nous pouvons raisonner comme ça. Je peux aller
les enfants ne
à l'audience
jamais.
De cette façon.
Vous savez, on a des exemples où trop, l'affaire Iacono, où il y a eu des rétractations de témoignages d'enfants. Iacono, le petit-fils accusant son grand-père, faux témoignage.
Oui, je rappelle que tous les enfants victimes dans l'affaire d'Outreau ont été reconnus victimes de viol, hein, premièrement. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que nous savons que, un, ce qui est le plus puissant, ce sont les mécanismes de déni. Deux, que les violences sexuelles faites aux enfants, comme toutes les violences sexuelles, comme les violences conjugales, font l'effet d'une double sous-révélation. Il y a un nombre très réduit de dépôts de plaintes, et lorsque les victimes déposent plainte, elles disent moins que l'horreur du réel effectivement subi. Ensuite, que nous savons que les fausses dénonciations, les fausses allégations que l'on pense par un réflexe contre-intuitif massif sont en réalité très résiduel, et le savoir nous apporte cette connaissance. Et enfin, nous savons qu'un enfant qui révèle des violences, particulièrement qui révèle des violences à une personne qui représente la loi et qui perçoit dans son regard qu'il n'est pas cru, risque un effondrement psychique.
Alors, monsieur le juge Édouard Durand, 70% des plaintes pour agression sexuelle sur mineurs sont classées sans suite. Pourquoi ça n'aboutit pas ? 70%.
Eh bien, pour tous les éléments que vous venez de susciter par vos questions, et puis
mais
parce
vous,
que...
Mais comment vous allez faire pour que alors, ça aboutisse ?
Eh bien, d'abord, il faut souligner qu'il y a un travail du gouvernement pour modifier la loi pénale, et notamment ce qui va se rapporter aux éléments de preuve constitutifs des infractions d'agression sexuelle ou de viol, et c'est très important. Il faut avoir conscience que, en l'état actuel du droit, la loi exige des policiers, des gendarmes, des avocats, des magistrats, qu'ils rapportent des éléments de preuve, par exemple de contraintes, qui, dans un rapport asymétrique, entre un adulte et un enfant, n'ont pas lieu d'être recherchés.
Mais ça veut dire que jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas joué le jeu. Si on en est là à 70% de plaintes...
Ce qui compte, c'est d'arriver à construire un dispositif législatif qui prenne mieux en compte le rapport asymétrique entre l'adulte et l'enfant pour se représenter la scène et pour voir que le passage à l'acte sexuel de l'adulte sur l'enfant est une perversion du besoin affectif de l'enfant.
Il y a un autre sujet important, c'est la prescription. On est souvent face à des personnes qui racontent 20, 30 ans, 40 ans après les faits, alors que c'est prescrit. Là, que peut-on faire ?
Alors, vous savez que le débat sur la prescription est un débat complexe, qu'il a lieu en ce moment, que plusieurs arguments sont avancés dans un sens ou dans l'autre. Il faut penser le droit de la prescription s'agissant des violences sexuelles faites aux enfants dans l'économie générale du droit de la prescription. Ce qui me paraît très important, c'est d'arriver à penser que nous avons conçu l'idée de la prescription pour assurer, dit-on, ce que nous appelons la paix sociale. Et je voudrais dire que garantir l'application de la loi, garantir la mise en œuvre d'un procès pénal, a été pensé pour garantir la paix sociale. L'issue du procès est pensée comme une garantie de la paix sociale. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est quand je dis économie générale du droit de la prescription, c'est que nous avons construit la prescription en la rapportant à l'échelle des peines et donc des infractions, contraventions, délits et crimes. Et donc, on peut tout à fait arriver à aménager ce droit de la prescription pour mieux prendre en compte l'aspiration des victimes de violences sexuelles à ce que justice leur soit rendue dans l'économie générale de la prescription.
En dehors de la loi, monsieur le juge, on parle souvent de l'école. Est-ce qu'à l'école, il y a des outils spécifiques qu'on peut mettre en place? Parce qu'on leur parle déjà de leur corps aux enfants, de ce qui est interdit, mais est-ce qu'on peut aller plus loin?
Oui, sans aucun doute, et c'est un objectif du gouvernement, c'est un objectif aussi de la commission. Nos institutrices, nos professeurs des écoles, nos infirmières scolaires savent très bien que, et d'ailleurs c'est l'école qui produit le plus de signalements d'enfants en danger et d'informations préoccupantes. Ouais. Donc c'est le lieu où on repère, où on voit les enfants dans leur développement, dans leur comportement avec les autres enfants et avec les adultes. Mais si nous avons cette exigence à l'égard de nos enseignants, nous devons leur donner des outils et nous savons que lorsque un groupe d'enfants est amené à réfléchir et à parler du corps, de la maison, de la violence, de la loi, il y a toujours un, deux, trois enfants qui vont révéler des violences.
Une dernière question, est-ce que vous allez travailler avec Jean-Marc Sauvé qui préside lui la commission sur les abus sexuels dans l'Église? Il a d'ailleurs rendu de premières indications hier. Le nombre de victimes pourrait s'élever à 10 000 et non 3 000, comme annoncé au départ. Il signe d'ailleurs, je crois, la postface de votre livre. Vous avez travaillé avec lui ?
Oui, bien sûr. J'en profite, Ernestine Ronet et moi remercions chaleureusement Jean-Marc Sauvé d'avoir bien voulu rédiger la postface de notre livre. Le travail que la commission qu'il préside a réalisé pour l'Église de France est absolument essentiel. 10 000 victimes de viol sur ces 70 années, évidemment c'est effarant et ça heurte nos consciences. Rappelons que nous sommes dans la société française à peu près 300 000 victimes de violences sexuelles chaque année, dont plus de la moitié sont des enfants. Il faut donc absolument renforcer notre culture de la protection.
Merci beaucoup, monsieur le juge.
Merci,
Edouard
madame.
Durand. Et je rappelle ce livre collectif « Violence sexuelle, en finir avec l'impunité » aux éditions d'Uno.
L'inceste est un crime absolument spécifique, vient de nous dire Edouard Durand, car l'abus sexuel est une perversion du besoin de protection de l'enfant. Violence sexuelle et donc en finir avec l'impunité, votre livre Edouard Durand, et on le rappelle une fois de plus, accessible aux éditions...